KCIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. KCIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respecter l'écart sanitaire et porter un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui ensemble les médias de demain.
Évidemment, si c'est fait un plus traité de sale nègre, bien évidemment qu'il y a aussi une volonté de porter atteinte à un homme noir.
Vous vous dites quoi? Encore une affaire de violence policière?
Je me dis non seulement encore une affaire de violence policière, mais je me dis surtout, vous imaginez ce que ça aurait pu entraîner? Vous imaginez que ce genre d'acte aurait pu coûter à son intégrité physique? Vous imaginez surtout que, comme on disait tout à l'heure, le chauffeur de taxi, mais ce genre de cas se passe apparemment souvent, mais malheureusement, il n'y a pas toujours les caméras de surveillance. Vous imaginez que s'il n'y avait pas eu ces caméras de surveillance, ça aurait été sa parole contre celle des policiers. Donc je pense qu'à bien des égards, ce qui s'est passé là est tout sauf un acte de comportement de policiers républicains.
Et ça pose, pardonnez-moi, je rebondis là-dessus, vous parliez des caméras, ça pose, il y a une polémique en France en ce moment autour de la loi sur la sécurité globale et son controversé article 24 qui vise à punir la diffusion malveillante d'images de policiers, qui est jugé liberticide aussi. C'est un cas ici encore qui montre que les images sont importantes, sont nécessaires.
Ah ben, je pense que pour le coup, ce qui fait qu'on passe d'un problème judiciaire, un problème d'administration dont il faudra aussi parler, un problème politique, c'est que ça tombe dans un contexte où cet article 24 dans la loi de sécurité globale veut limiter le fait qu'on puisse porter à la connaissance et qu'on puisse filmer ces actes de policiers.
Onde de choc en France après le passage à tabac d'un homme noir par des policiers. Et oui, une vidéo inouïe, édifiante, captant cette violence tourne en boucle dans les grands médias français, sur les réseaux sociaux et largement partagée. Plus de 14 millions de vues. Des images qui montrent un homme noir, Michel Zegler, roué de coups par des fonctionnaires de police. Une affaire qui a choqué le président Emmanuel Macron et relancé le débat récurrent en France sur le racisme et les violences policières. Une autre affaire qui vient éclabousser l'image des forces de l'ordre en France et qui tombe à un bien mauvais moment avec la loi sécurité globale, une loi susceptible de protéger les policiers au détriment des libertés publiques. Longtemps cantonnées aux banlieues ou dans les endroits chauds ou à risque, les violences policières envahissent-elles tout l'espace public? Voilà la grande question. Pour Sébastien Rocher, chercheur au CNRS, auteur de « La police en démocratie » aux éditions Grasset, analyse la multiplication de ces actes de brutalité, les récentes affaires de violences policières, l'évacuation de migrants de la place de la République à Paris ou le tabassage d'un producteur de musique démontrent un problème culturel en France. Cette agression est inacceptable et ces images font honte aux forces de l'ordre et aux Français. Oui, je le dis bien aux Français, car depuis quelques jours, il y a des franges de la société française qui appuieraient à 100% le comportement de ces policiers racistes. Alors, où va ma douce France ? Et oui, bienvenue mesdames, messieurs, vous êtes bien dans le Potpourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Adair sur www.cut.fm. Collaboration spéciale aujourd'hui, Radio France Internationale, TV5 Monde, France Info, France 24, maître Peter Biro qui nous revient avec sa chronique. La nouvelle maison de production de musique Tola Lito Music à Montréal nous présente des artistes émergents de la diversité au Canada. Aujourd'hui, le nouveau vidéoclip Natural de Jerry Mr. J. Que le chemin parcouru de sa ville natale Port-au-Prince. Pour remercier un auditeur fidèle d'origine martiniquaise, Jean Jubeneau, qui est peut-être à l'écoute, il est enseignant dans la région de Toronto, un petit cadeau pour lui, et oui, un ténor du Zouk que nous venons de découvrir. Il est originaire de la Martinique, Stéphane Ravor, et sa dernière chanson. En exclusivité concourt le prix du journalisme radio des médias francophones publics. C'est aujourd'hui le dévoilement du reportage favori des jurys. Et vous entendrez les 5 finalistes des radios publiques de la Suisse, France, Belgique et le Canada. Coronavirus, et oui, un coup de fil peut sauver une vie, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que le téléphone est ergonomique et facile à manipuler. qu'en est-il pour les personnes âgées? C'est notre touche d'humour en ce dimanche. Anne Sylvestre, l'artiste féministe libre, est décédée cette semaine en France. Elle était loin de n'être qu'une chanteuse de contes musicaux pour enfants. Un petit hommage à dimanche prochain, le 13 décembre. Le Collège Glendon a un nouveau principal professeur, Marco Fiola. Bienvenue à Toronto, à votre nouveau poste. Yann Chantrel, coordonnateur du comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte au Québec, et plusieurs élus de Français de l'étranger au Canada dénoncent avec vigueur une grave atteinte à la neutralité du réseau diplomatique et l'utilisation des instances diplomatiques à des fins partisanes par politicien français. Et oui, ça s'est passé lors d'une conférence virtuelle. Une lettre a été envoyée au secrétaire d'État et au ministre des Affaires étrangères. Vous trouverez sur notre site le lien de cette fameuse lettre. popourishow.com. Un bonjour spécial à une nouvelle auditrice et abonnée de notre page Facebook, Anne Siro. Elle vit en France, elle est professeure d'anglais à la retraite. Bien le bonjour et bienvenue dans le Popourri Show à Toronto. Merci aux nombreuses auditrices qui ont réagi à l'émission du dimanche dernier suite à l'entretien avec la cinéaste Gentille Assis et son film sur les femmes immigrantes francophones au Québec victimes de violences conjugales. Son témoignage a eu écho même à Bruxelles, en France, à Trois-Rivières, au Sénégal et en Algérie. Haïti, rapidement, un article de notre collègue et correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron, démontre l'insécurité qui règne dans ce pays. Elle écrit « En sortant de chez soi, on a le doute quant à savoir si on va rentrer. Les mères, les pères, les époux, les parents, on vit tous dans une inquiétude quotidienne et constante. » Et on apprend à l'instant que le journaliste Guilherme Sius Delva a été retrouvé à Piétonville, c'était le 1er décembre, après 48 heures de silence. Au Tchad, violence, arrestation arbitraire et cybercensure. Les radios privées lancent un appel sans radio. Le Tchad est classé 123e sur 180 pays en matière de la liberté de la presse. Il ne fait pas bon d'être journaliste au Tchad. Parmi nos coups de cœur, la Société d'Histoire de Toronto et sa prochaine conférence virtuelle, les nouveaux romans de la maison d'édition Prise de Parole et les articles qui font réfléchir. Vous trouverez tout ça sur notre site popourishow.com. Covid-19, le cas s'explose, madame, monsieur, en Europe, un peu partout dans le monde. Et justement, ici au Canada, c'est la catastrophe presque. Aux États-Unis, c'est pire. Pendant ce temps, c'est la mobilisation mondiale. Les préparatifs pour le déploiement des vaccins s'accélèrent. Faut-il s'inquiéter de la pandémie avec laquelle, la rapidité plutôt avec laquelle ont été conçus ces vaccins? Michel Goldman, professeur du immunologie à l'Université de Bruxelles, était au micro de France Info. Reportage.
Le vaccin conçu le plus rapidement de l'histoire, c'était contre Ebola. Il a fallu 5 ans. Alors, un vaccin anti-Covid qui serait développé en moins d'un an, c'est du jamais vu. Et on le comprend, ça peut être inquiétant.
Je suis en général pour les vaccins, mais je dois dire que là, je vais peut-être attendre un peu. Et j'attendrai quand même pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire.
Mais cette vitesse ne signifie pas pour autant que les tests ont été bâclés par les laboratoires. Les chercheurs mènent bien tous les essais cliniques indispensables.
Les conditions correspondent aux standards, à la fois en termes d'efficacité et de sécurité. Il faut quand même voir que c'est des dizaines de milliers de volontaires qui auront été injectés avec ces vaccins. Donc on peut être raisonnablement rassuré.
En fait, si les scientifiques ont été aussi rapides, c'est parce qu'ils étaient très nombreux et très bien financés par les laboratoires privés comme par les institutions publiques.
On a mis énormément d'argent. Donc on a mis énormément de personnes sur ce thème de recherche, on a mis énormément d'argent sur les modèles expérimentaux qui coûtent extrêmement cher. Et d'autre part, pour la première fois, il y a eu une coopération entre divers industriels qui a permis d'avancer encore plus vite.
De plus, la phase de recherche et celle de production ont été menées simultanément pour plusieurs vaccins, ce qui n'arrive habituellement jamais.
Là, les industriels ont pris un risque énorme, ça il faut vraiment le reconnaître, en lançant une production alors qu'ils ne savaient pas encore si leur vaccin servirait à quelque chose.
Au niveau administratif également, tout a été accéléré, car les dossiers concernant les vaccins anti-Covid ont été examinés en priorité chaque fois que des résultats préliminaires étaient disponibles.
Les agences réglementaires se sont adaptées, ils ont mis en place ce système qu'on appelle en anglais de rolling review, c'est-à-dire que, si vous voulez, la revue des données s'est faite de façon pratiquement continue.
En conclusion, si les vaccins anti-Covid ont été conçus aussi rapidement, ce n'est pas au détriment de la recherche scientifique. Malgré tout, on ne peut pas exclure toute possibilité d'effet secondaire, même si c'est extrêmement rare. C'est le cas de tout médicament mis sur le marché pour la première fois.
Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Francophonie, politique, monde, économie, démocratie, société, culture. Tout y passe dans Popourri Show. Et oui, la démocratie souffre et sa promesse a besoin d'être relancée. En effet, la valeur ajoutée, la viabilité, l'avenir de la démocratie font l'objet d'une contestation inédite dans l'histoire moderne, en tout cas depuis les années 1930. Si les 40 dernières années ont connu une remarquable expansion de la démocratie dans toutes les régions du monde, ces dernières années ont été marquées par le déclin du tissu des vieilles comme des jeunes démocraties. La démocratie, première victime de la guerre contre la vérité, notre chroniqueur, auteur, homme d'affaires prône pour une agence canadienne de promotion de la démocratie. A-t-il raison ou est-ce une utopie? La parole est à maître Peter Biro.
Le poète grec Eschyle a fait remarquer que, dans la guerre, la vérité est la première victime. J'ajouterai que, dans la guerre contre la vérité, la première victime est la démocratie. L'assaut contre la vérité et la recherche de la vérité constituent la plus grande menace pour la démocratie constitutionnelle libérale, ici au Canada et partout dans le monde. Cet assaut est à la fois intentionnel et par des moyens directs, est une conséquence et une fonction involontaire mais inéluctable de la fragmentation et de la polarisation produite par le moyen actuel de communication de masse, Internet et ses sous-cultures sur les réseaux sociaux. Nous assistons en temps réel à la prophétie de George Orwell en tant que président américain avec ses facilitateurs, partisans et ses co-conspirateurs disent à une circonscription étonnamment réceptive que le blanc est noir et que le noir est blanc. Alors, quelles sont les ramifications des aspirations et des responsabilités du Canada vis-à-vis de la promotion de la liberté et de la démocratie au sein de la communauté des nations? Il va sans dire qu'en tant que puissance moyenne classique, l'influence du Canada sera la plus grande en tant que collaborateur actif et vocal d'une alliance de nations partageant les mêmes idées. Surtout dans le sillage de la présidence de Trump, la simple réhabilitation du multilatéralisme se révélera en elle-même un élément essentiel de tout engagement international canadien sur ce problème. Au cours de la prochaine décennie où Stephen Harper était premier ministre du Canada, une initiative a été proposée qui verrait la création d'une agence canadienne de promotion de la démocratie, dont la mission serait de parrainer le travail de renforcement des institutions dans les démocraties émergentes et dans les pays où il y a une aspiration nationale à un gouvernement démocratique. Mais si par promotion de la démocratie, nous entendons une politique d'exportation de notre propre modèle vers les sociétés moins développées, moins fortunées, lire moins éclairées, cela ne portera pas toujours ses fruits et peut même parfois être contre-productif. Je propose que l'un des mandats de toute agence de promotion de la démocratie au Canada doit être de s'attaquer de front et de manière systématique à l'assaut contre la vérité et à la déconstruction de notre fondation épistémique commune qui disparaît rapidement. Cela obligera le gouvernement à former son regard critique sur la prolifération de la désinformation, sur la cybersécurité et sur la réglementation des géants de l'Internet qui offrent un refuge aux fausses théories du complot au nom de la protection de la liberté d'expression. Et il demandera de manière plus critique à notre société civile de donner la priorité à l'éducation civique qui, jusqu'à présent, n'a pas assumé sa responsabilité la plus fondamentale, à savoir inculquer à nos étudiants le sens de devoir de défendre liberté politique et de résister à un gouvernement irresponsable. Ce n'est certes pas un objectif modeste, mais à moins d'en faire une priorité politique, il n'y aura pas de véritable marché des idées, pas de capacité sociétale à générer un consensus sur les grands et sur les petits défis à travers les lignes partisanes, idéologiques, culturelles et socio-économiques. Et par conséquence, il n'y aura pas de démocratie libérale à proprement parler. Peter Biro, correspondant spécial, le Potpourri Show, CIUT-FM.
Les gars, vous êtes d'accord qu'on vit une période de dingue? On en a marre de ce virus, pas vrai? Alors, faut qu'on fasse un truc ensemble. Quand tu vas faire tes courses, respecte la distance. Quand tu pousses ton chariot, tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Suis les consignes
et tu galopes.
Et tu respectes la ligne
ou tu l'échappes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu dois avoir ce feeling pour les autres gens dans la même galère. Ensemble, ensemble. Tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
CIUT 89.5 Toronto. Pour ne plus rien rater des programmes de TV5 Monde, TV5MondePlus.com. À vous de voir ou de revoir.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous.
Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et France24.com.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
En été, comme en hiver, à la ville, comme à la campagne, Popourri Show vous accompagne. Et oui, n'oubliez pas de découvrir les podcasts Quoi de neuf, les cafés du CREFO, notre partenaire. Covid-19 oblige, le CREFO se réinvente. Chaque semaine, on vous propose un cœur à cœur avec une invitée ou un membre du monde de l'éducation ou de la francophonie. Quoi de neuf, les cafés du CREFO sur le site du CREFO ou sur popourrishow.com. Et oui, chaque année, les médias francophones publics, Radio France Internationale, Radio-Canada, la RTS, la RTBF, organisent le prix du journalisme, un prix qui se distingue pour le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société, présenté par les rédactions des 5 radios membres des médias publics. Et oui, les résultats seront d'ailleurs proclamés ce dimanche 6 décembre au terme de la délibération du jury et des auditeurs. Et en exclusivité, j'ai le bonheur de vous présenter les 5 enregistrements présélectionnés. Premier reportage, le camping Beau Soleil en temps de pandémie. Un reportage de journaliste Akli At Abdallah de Radio-Canada. Déjà éprouvé il y a quelques années par de graves inondations, le camping Beau Soleil a dû cette année composer avec la pandémie et la fermeture des lieux de villégiature. Et en surveillant tous les jours les points de presse du Premier ministre et du directeur de la Santé publique au Québec, l'homme de 56 ans attend qu'on l'autorise à accueillir les campeurs, les tentes, les caravanes, sans lesquelles, dit-il, son existence n'a plus de sens. Reportage d'Akli At Abdallah de Radio-Canada.
C'est plein de poissons habituellement. Quand tu fais ça, le TV, ça saute partout. Là, cette année, il n'y a rien qui se passe. Une méchante drôle d'année. Il n'y a rien qui marche.
C'est en bordure de la rivière Richelieu qu'André Beausoleil a investi en 2004 son fonds de retraite pour réaliser ainsi un rêve de jeunesse, ouvrir un camping et y couler des jours heureux.
Ici, moi, j'ai 47 terrains. C'est tout ce que j'ai ici. C'est sûr, de la fin de semaine, t'as des gens qui viennent camper les fins de semaine avec une tente. C'est la fête à Mme Tremblay, mais sa famille vient pour la fin de semaine voir Mme Tremblay pour fêter sa fête. C'est la fête à Patrick. C'est le monde, t'sais. Ça rapporte, ça. C'est une petite gâterie pour moi. Puis il y a du monde. Là, c'est comme tu vois, là, il fait beau. On est bien dehors. Il fait soleil. On est à fin mai. Puis comme tu vois, je suis seul ici. C'est vide, 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 vide. Puis c'est le même depuis l'histoire de la pandémie. À partir du mois de mars, mes pêcheurs d'hiver, ils ne sont pas venus pêcher à cause de la pandémie. Habituellement, les quais qui sont là-bas sont pleins de bateaux. Là, étant donné que la campagne est fermée, j'ai pas de bateau, je peux pas laisser rentrer personne. Là, ils attendent tout avec impatience d'ouvrir, mais avec les règlements du gouvernement, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est du monde qui voulait donner des dépôts pour les terrains, je les ai dit d'attendre. Je ne veux pas prendre d'argent, mais être obligé de les rembourser si on ne rouvre pas. Comme tu vois, là, je coupe du bois, je me prépare pour mon été, s'il y a un été. Quand t'en pognes comme ça, c'est là que tu vois t'as 60 ans.
Ma première rencontre avec André Beausoleil remonte au printemps 2011, quand la rivière Richelieu était sortie de son lit pour envahir son petit paradis.
Là, c'est devenu notre petite affaire. Regardez ça, monsieur. Vous voyez, là, les roulottes, c'est tout inondé. Là-bas, regardez, il y en a une qui flotte là-bas. Les roulottes sont toutes endommagées. Les chalets sont endommagés. Il y a un pied d'eau dans tous les chalets. C'est complètement fini. J'ai l'impression qu'il n'y en aurait pas de camping cet été. C'est impossible. Quand tu rentres une chaloupe d'une maison, là, j'essaie d'être fort, mais je ne sais pas si moi, je suis assez fort pour passer au travail. Les inondations, j'ai fait une grosse dépression parce que je suis quasiment sûr que je partais de camping, que j'avais tout investi pour rien. Là, j'ai réussi à passer au travail. Ça m'a pris 9 ans, puis là, c'est la première année que je m'en sortais, que c'était à plein encore. Là, il arrive la pandémie. À tous les 10 ans, je suis pogné pour recommencer. J'ai plus peur, là, de le perdre que j'ai eu peur des inondations. Parce que c'est sûr et certain que là, si on rouvre pas le camping, c'est définitif que d'ici le mois de septembre, moi, ça va être la faillite, ou bien non, ça va être une reprise de finances. C'est sûr que ma vie va y avoir passé pour absolument... Je vais avoir investi ma santé, mon fonds de pension, je vais tout avoir investi pour me retrouver à la rue. Me retrouver à la rue... Je sais pas comment m'en faire m'en sortir. Si le gouvernement nous aide pas plus que ça, s'ils peuvent pas nous aider, au moins qu'ils nous laissent ouvrir. Fait que tu rouvres ou tu rouvres pas, mais tu nous aides ou tu nous aides pas, tu le dis tout de suite. Et si tu veux le rouvrir, attends pas dans un mois, il va être trop tard. Rouvre-le tout de suite. Les litières de chat, à tous les jours. Moi, je mets ma musique tranquille, puis... En même temps, j'ai toutes les nouvelles toute la journée. Puis, quand il y a joué qui parle des campings, ben non, comme tout à l'heure, ça va être le point de presse. Là, je m'installe, écoutez mon point de presse de M. Legault, M. Arruda, en espérant qu'ils vont parler de nous autres puis qu'on sache où on s'en va. C'est juste ça, qu'ils nous le disent.
Allô?
Allô? Je peux-tu te déranger 5 minutes?
Bien, certain.
OK.
C'est non. Pas dérangé, ça.
Comment tu vas, là? Comment ça a été le matin?
Ça a bien été, mais...
Ça, c'est Nathalie, c'est mon amoureuse, ma blonde, là. Puis c'est elle qui me pousse un peu à vouloir... À vouloir continuer, à vouloir foncer, là.
Puis, elle peut pas venir, elle.
Non, elle est à Sorel, puis étant donné qu'elle travaille dans un centre alimentaire pour les personnes en difficulté, là, qui ont quand même pas beaucoup de sous, est obligé de rester sur elle, puis moi je suis noyant. Fait qu'on se voit pas. On attend qu'il nous donne la permission de. Qu'on puisse se voir, tu sais, aller à Sorel, puis se regarder avec un masque, puis s'envoyer à la main, c'est, ça va être encore pire. Fait qu'on se parle au téléphone des 4-5 heures par jour. Présentement, je peux te dire que 99,9% c'est en cause d'elle, si je suis encore debout. Ça fait 15 ans que je travaille comme un malade pour faire de quoi de bien, puis être heureux. Moi, tout parle. Là, c'est eux, tu sais. Elle m'a sauvé. Mais j'ai peur. Je me couche le soir, là, puis... J'ai peur, puis il me semble que je ne me réveillerai pas le lendemain, puis ce serait peut-être la meilleure affaire, mais je veux foncer, je veux réessayer en gros. J'étais un battant, puis elle me dit toujours, puis elle n'arrête pas de me le répéter quasiment tous les jours. André, t'es un battant, puis tu peux pas te laisser tomber de même, tu vas être capable, tu vas t'en sortir, mais ça ne sera pas d'elle, probablement je ne serai pas debout. Même quand on s'est connus, moi j'allais toujours appeler mon ange, puis... C'est elle qui m'aide vraiment à passer au travail, là. Présentement, même de loin, elle a réussi à m'aider un peu, là. Fait que, tu sais, ça, mais elle m'a laissé finir ton avant-midi, puis quand t'as une chance, mais tu me rappelles.
OK, ben, aussitôt que je peux m'en aller, ben, je te rappelle tout de suite.
OK, mon amour. Bonne fin d'après-midi, d'avant-midi.
Et toi aussi, mon bébé.
Bye-bye, je t'embrasse.
À tantôt. Bye-bye.
Bye-bye. J'ai un client qui est parti, il est venu chercher sa roulotte la semaine passée parce qu'il ne s'arrouvrira pas, fait ça, il tentait pas de prendre de chance. Fait qu'il est parti avec sa roulotte. Là, je suis en train de nettoyer ce terrain-là. Il a laissé le balcon là coupé en deux. Puis, tu sais, il m'a tout laissé ça sur le terrain de même. À manger comme je t'ai mangé là, que je vois que tout est à recommencer, puis tout, c'est. Le virus va m'emporter, peut-être pas par le virus, mais par la folie ou ben non par la maladie, parce que ça me met à terre. Non. Et sans toi. Mon amie, mon amoureuse, elle dit, gars, je t'ai envoyé un clip, parce que je te disais tantôt, je l'appelle mon ange. Puis elle m'a envoyé le clip de notre première chanson quand on s'est connus.
J'en dirais que t'as toujours été là. Toujours de toi.
C'est notre chanson quand on s'est connus.
On a tous un ange, on dira bien que c'est toi, on dirait.
Et oui, après le premier reportage de Radio-Canada, nous allons maintenant entendre un deuxième reportage. C'est toujours dans le cadre des 5 enregistrements présélectionnés pour le concours des radios francophones publiques. Les résultats sont proclamés ce dimanche, 6 décembre. Et oui, nous attendons avec impatience ce grand moment pour nos confrères des radios publiques. Alors, deuxième reportage, 8 femmes à bord de Francesca Algirofo de la radio-télévision suisse. En novembre 2019, 8 femmes larguent les amarres à Santa Cruz et mettent le cap sur la Martinique. Elles vont traverser l'Atlantique sur un catamaran. Et la journaliste Francesca Algirofo est à bord. Dans ses bagages, 2 enregistreurs, radio et une grande envie de raconter dans un podcast cette épopée insolite qui est aussi une histoire de sonorité. 8 femmes à bord de Francesca Algirofo de la radio-télévision suisse.
J'ai très peur. Le challenge, c'était pas de traverser l'Atlantique, c'était de se retrouver confiné sur un bateau, moi qui est un peu hyperactive et sportive et tout, et qui avait tout le temps la bougeur, c'est de se retrouver donc sur un bateau, espace restreint, avec 8 femmes. Et moi, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Et j'étais morte de trouille.
Faire autant de jours en mer, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui ont vécu ça, ouais, sans voir les côtes.
Je pouvais pas imaginer qu'on vivrait une aventure pareille. J'anticipais rien. Faut dire que je me suis pas préparée.
Je me dis que c'est la chance d'une vie.
Je me réjouissais, puis ça suffisait, il fallait y aller. Mais je pouvais pas, j'avais aucune idée de ce qu'on allait vivre.
Je pense que beaucoup d'entre vous pensaient que ça allait être maillot de bain, mais c'est pas du tout maillot de bain.
Pour moi, cette traversée, elle a aussi la dimension de sentir respirer, ses alizés, de voir comment ses courants nous portent.
Ma fille nous a même fait une remarque, on a tellement ri, elle dit, écoute maman, même si tu te fais bouffer par un requin au milieu de l'eau, on sait que ça sera ton bonheur, donc on sera heureux. Voilà. Et toi, sinon, ça va?
Et moi?
Est-ce que ça va? Moi, c'est Francesca. Je suis journaliste à la radio, mais c'est pas pour ça que je suis là. En fait, comme 5 autres équipières, j'ai eu le cancer du sein. Et c'est cette double traversée que je vais vous raconter. Celle de l'Atlantique et celle de la maladie. Alors, à quelques heures du départ, j'emmène pas l'argent. J'ai peur d'être un poids. J'ai peur d'avoir le mal de mer. J'ai peur de tomber à l'eau. Mais je suis super contente de faire partie de cette aventure.
C'est parti, les filles!
On nous a mis une limite sur notre chemin de vie qui pourtant était agréable, il n'y avait pas de raison. Tout d'un coup, on nous a mis un petit panneau en disant « Attention, maladie mortelle ». Et on nous a parlé en statistiques. Vous avez 80% de chances d'être guéri à 5 ans. Donc vous avez X% de chance. Ouais. Et ça, c'est hyper flippant.
J'ai eu l'échographie qui a été faite. Et là, en fait, mon doute était déjà très, très installé. Mais j'ai vu le regard du radiologue aller de l'écran à mon visage et vice-versa. Et j'ai compris dans ses yeux et j'ai regardé l'écran et j'ai vu qu'il zoomait sur quelque chose qui avait une autre couleur, une autre texture. Et le moment où je suis sortie du radiologue, au moment où je me retrouve sur le trottoir, ben, je m'effondre parce que je savais que j'allais avoir des mois pas très drôles devant moi. Et puis, je savais plus ce que je devais faire ensuite. Je sais que je devais aller rendre du matériel de ski pour mes enfants. C'était la fin de la saison. Et que je suis arrivée chez ces loueurs de ski en pleurs aussi, puis en disant « Bon, je vous rends le matériel de ski. Je sais pas si je pourrais en refaire l'année prochaine. » Parce que je viens d'apprendre que j'étais malade. Et c'était assez terrifiant. Là, on a une vague au moins 6 mètres qui est en train de nous arriver dessus.
Là.
Ça, c'est à la hauteur. Plus que le bateau, ça fait 5 mètres que tu es en bas. Bon, regarde.
Donc, oh, t'as mis un gilet, comment tu te sens, c'est mieux. Hein.
C'est
mieux
l'utiliser là.
Pas trop chaud aussi. Hein?
Parce que toi, t'as dû avoir la même chose. T'as une intuition.
Non, c'est pas bien. Parce que moi, en fait, j'ai loupé mon contrôle. Je me suis pas inquiétée. Et voilà.
Et voilà. Ça, c'est ma réponse. C'est pas une super réponse. Le moment où j'ai appris mon cancer, ça a été un moment assez émouvant aussi pour moi. Assez fort, et je m'en souviens très bien. Mais je trouve tellement difficile ici à bord de pouvoir à la fois recueillir des témoignages et être équipière, c'est-à-dire être à la fois dedans et dehors. À ce moment-là, je suis pas très à l'aise avec ça.
On m'a retiré les deux seins en même temps. C'est pas plus mal parce que j'ai de symétrie. Et ma maman, la première réaction de ma maman était de dire « Mais Stéphane, c'est pas possible, on ne peut pas t'enlever tes seins. » Et la réponse était « Mais ce sont pas mes seins qu'on va m'enlever, ce sont mes cancers. » Vu comme ça, effectivement, c'était plus logique. Et j'avais une petite phrase dans ma tête, Angelina Jolie l'a fait, pourquoi pas moi? Si une femme aussi belle que ça peut le faire, moi aussi je dois le faire. Bon, bah, pour le coup, j'avais pas vraiment le choix, tu me diras.
T'es prête?
Ta vague arrive, mais tu dois pas l'analyser. Tu constates, ça monte, ça descend, ok, point barre, t'analyses pas.
Pendant qu'on est sous chimio, on est un peu un légume, quoi. C'était vraiment la punition de savoir qu'il fallait retourner se faire injecter cette chimiothérapie qui nous rendait malades, qui nous faisait vomir, qui nous clouait au lit pendant plusieurs jours avec des nausées assez terribles quand même, donc qui coupaient l'appétit. Et c'était manger vite quelque chose pour que le corps ait de la nourriture, parce qu'il ne faut pas s'affaiblir non plus en ne s'alimentant plus. Mais c'était comme mettre un tube dans la bouche. Voilà, en 3 minutes et demie, je vais manger très vite. Ensuite, je repars à l'étage, j'ouvre les fenêtres et je respire pour pas vomir.
c'est l'heure de manger.
Ma petite minute avec sa bonnette. Viens manger. À table.
Calcul du jour.
C'est là qu'on est. Ça ressemble quand même assez à la moitié. Hein.
C'est la moitié, mais c'est la moitié qui permet d'ouvrir une bouteille de champagne. Yes.
Et ça, c'est chouette.
Bravo. On
est à la moitié.
Vive France Transat.
Santé, pipi.
Santé, pipi.
France Transat, pipi.
Enlevez ma culotte.
À un moment donné, ben, on te fait comprendre que la vie continue, puis qu'il y en a marre, quoi, puis que t'arrêtes pas de parler de ta maladie, puis qu'il faudrait peut-être que tu changes de sujet. Puis là, ben, je l'ai pas mal pris, bien au contraire, parce que je pense que mon mari, en me disant ça, il m'a rendu service. Parce qu'à un moment donné, t'as besoin qu'on te bouscule, quoi, surtout que j'étais en état de dépression. Et je me dis, ben là, 50 ans, c'est peut-être ma deuxième adolescence, tu vois. J'ai envie de faire des chouettes trucs. Je me dis, ben voilà, on peut encore. Mais on fait des choses à notre niveau, quoi.
Caroline 2.0.
Et je pense que le fait de savoir, où je me mets à la place de mes filles, de se dire, bah, ma mère, tu vois, elle va faire un truc un peu exceptionnel, je me dis, bah, tiens, là, ça va les rendre fiers, quoi. Ça va pas seulement être ma mère, elle a eu un cancer, mais du coup, ma mère, elle a traversé l'Atlantique. C'est quand même un peu plus sexy, quoi.
Et oui, mesdames, messieurs, nous entendons actuellement les 5 enregistrements présélectionnés pour le concours final des médias francophones publics. Les résultats sont attendus aujourd'hui, en ce dimanche 6 décembre. Une émission en exclusivité sur CUT 89,5 FM. Troisième reportage, vie et mort à l'hôpital Bichat, un hôpital au temps du Covid. Un reportage du journaliste Solène Lehen de Radio France. Alors que les Français sont toujours confinés chez eux, l'hôpital est toujours ou encore sous le choc. La première vague a été violente, mais deux services de réanimation à la chambre funéraire, l'hôpital a tenu bon. Portrait de ses soignants, de ses patients, leur fatigue, leurs doutes, leurs peines, leur colère, mais aussi derrière leur masque, leur sourire, leur rire. Vie et mort à l'hôpital Bichat, un hôpital au temps du Covid. Du journaliste Solène Lehen à Radio France.
On était venu il y a un mois tout juste pour un reportage dans ce service de réanimation, le cœur de l'hôpital. Il accueillait alors les premiers malades français du Covid-19. Dans ce long couloir aux 36 chambres occupées par des patients très gravement atteints, on retrouve une figure familière, le professeur Lila Boadma, le visage marqué.
Je pense que comme tous les réanimateurs français, on est sous choc, parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça. 7000 malades en réanimation, c'est quelque chose que je pensais, qu'on pensait ne pas pouvoir faire. On y est arrivé, mais bon, ça a des conséquences sur la fatigue, etc. Donc, fatigué.
Nombre de morts dans votre service ?
J'ai pas compté, mais beaucoup, beaucoup. Il y a plein de patients qui vont possiblement décéder, qui sont extrêmement graves et qui vont possiblement décéder.
Et alors qu'on discute, des infirmiers et aides-soignants s'agitent à côté de nous. Un patient vient de mourir. Le travail se fait en silence, le corps peut être contagieux, il faut immédiatement le mettre dans une housse. Charlène et Marie, infirmières, se sont occupées de cet homme dans ces derniers instants.
Bah oui, on s'y attendait, on savait qu'il allait pas s'en sortir, il est parti doucement. Et...
C'est pas décourageant ?
Au début, si, parce qu'on en avait beaucoup, là on en a de moins en moins, heureusement. Heureusement, mais bon. Mais oui, on prend l'habitude et c'est un peu triste.
Ce décès, c'est terrible, mais ce sera aussi une place de libre en réanimation pour accueillir très vite un nouveau malade. Ce patient décédé, c'est désormais Yannick Tolila-Huet qui va s'en occuper.
Vous êtes à la chambre mortuaire de l'hôpital Bichat.
Elle est responsable de la chambre mortuaire de l'hôpital.
C'est une pièce commune à basse température où tous les brancards sont disposés les uns à côté des autres. Normalement, ils sont numérotés. Là, il n'y a plus de numéro, il y a des brancards partout, partout, partout. On l'a faite, la place, on a été pas mal aidé. Donc on a un camion semi-remorque réfrigéré sur le parking de la chambre mortuaire.
Les patients, vous les mettez dans un camion ?
Et la seule façon de les conserver dignement pour pas que l'évolution du corps continue à se faire à vitesse grand V, c'est de les garder au frais. Vous savez, quand on n'a pas le choix entre la peste et le choléra, il faut choisir. Hein.
Petite femme aux cheveux grisonnants, Yannick Tolila-Huet pensait en avoir vu d'autres.
J'ai pris 10 ans, là, déjà. Moi, le sida a marqué ma vie définitivement. Je ne pensais pas avoir à vivre encore un truc comme ça qui pourrait marquer, effectivement, ma carrière de soignante. Hein. Alors, ça reste des épidémies qu'on n'oubliera pas.
Il joue du piano debout au milieu du couloir du service de maladies infectieuses. Lui, c'est Timothée, il est interne. Quand il a une minute, il joue quelques notes pour ses patients. De sa chambre, Moussa Diallo ne peut pas les entendre. Il est pourtant à quelques mètres seulement, mais très isolé, dans une chambre à pression négative pour ne pas laisser le virus s'échapper. Déjà 2 semaines à l'hôpital pour ce quinquagénaire. C'est Sandrine Gérard, cadre de santé, qui vient briser sa solitude de malade.
Je ne vois pas mes enfants, je ne vois personne.
À part les soignants.
Après, à part, voilà. Et nos parents, aujourd'hui, c'est eux.
Vous êtes sa maman ?
C'est vrai qu'on accompagne. Sincèrement, c'est grâce à eux que nous, on arrive à tenir. Quoi. Quand je regarde à 2h du matin les gens qui venaient sur moi ici pour venir prendre mes prises de sang parce que je faisais une fièvre et tout ça, qui se privaient de sommeil, qui venaient chez moi, sincèrement, ça, c'est énorme. Quand je pense à ça, des fois, j'ai les larmes aux yeux. Ça fait partie de moi. Ça fait partie d'une famille. Parce qu'ils se battent pour nous. Je ne sais pas combien ils touchent, mais je me dis qu'ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur côté financier. Ça, c'est sûr. Mais ils se battent pour nous.
Comme dit monsieur, c'est vrai qu'on est ensemble, on est ensemble. On l'aide à aller mieux, mais ils nous aident aussi à continuer. C'est énorme ce qui se passe actuellement en termes de relations, contacts, de contacts. C'est énorme.
À plus tard. Monsieur,
bonjour.
Bonjour, tu vas bien ?
Ouais.
Il y a aussi des moments de doute, des décisions difficiles à prendre. Chaque matin, à 9h30, Christophe Choquet dirige une réunion d'éthique. Il faut décider, faire des choix pour les patients. Ils sont 6 médecins autour de la table.
52 ans.
52 ans. Diabète insulino-dépendant, dyslipidémie.
Quand même. Vient le dossier d'un malade.
C'est 68 de PO2.
Au fur et à mesure de la lecture, les visages se tendent. Un patient atteint de Covid, déjà diabétique, insuffisant respiratoire avec de graves problèmes pulmonaires. L'équipe appelle son pneumologue.
Oui, c'est Jean-François, je te dérange. La question qui se pose est de savoir si on irait jusqu'à une intubation, ce qui me semble extrêmement délicat vu l'état de ses poumons. Mais on voulait en parler avec toi d'abord. Et exactement. On est d'accord. Bon, Lise est plutôt d'accord, le bénéfice à l'intubation paraît.
Jean-François Alexandra, médecin et président du comité d'éthique de l'hôpital.
Si jamais ça ne se passait pas bien avec des soins standards, malheureusement, ça veut dire que ce patient mourrait. Faire une ventilation dans cet état-là ne lui apporterait aucun bénéfice, uniquement des souffrances.
J'imagine que ce genre de décision, c'est lourd à prendre.
C'est jamais très agréable. C'est pour ça qu'on est plusieurs.
Des équipes qui tiennent debout ensemble, soudées, couvertes de cadeaux, de dons, de chocolat. Un hôpital qui rigole même.
Alors, comme ça, on dit qu'il est malade ?
Huitième étage de la tour principale, nous sommes en pneumologie. À l'accueil, Leïla, Audrey et Séverine décompressent.
Alors, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'adrénaline.
Il est là, on va à la gauche. Salle d'attente, ton patient. Merci, mesdames.
À tout à l'heure.
Il y a de quoi avoir le sourire sur une chaise à côté. Nathalie Linon attend d'être reçue par le médecin. Elle se qualifie de survivante. Réanimation, coma. Finalement, elle sortira de l'hôpital dans 2 jours.
Au bout d'un moment, je vous l'avoue, j'ai voulu abandonner. Trop dur. J'ai des enfants, j'ai un super mari, j'ai 2 filles magnifiques. Ils m'ont annoncé leur grossesse chacune. Je me relève. Interdit de renoncer à quoi que ce soit. Et maintenant, je vais manger de la vie à pleines dents. C'est même plus la joie, là, ça va. C'est...
Ça fait presque 2 mois à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels souvenirs vous allez en garder?
J'ai eu des gens magnifiques. Remercier Nicolas, kiné respiratoire. C'est un jeune homme de 36 ans qui m'a redonné goût. Et c'est lui qui m'a fait respirer. Peut-être grâce à lui que je suis encore en vie. Je sais même pas comment le remercier. Je saurais jamais le remercier. Je pense que j'aurais pas assez de souffle de ma vie, maintenant que j'ai du souffle, pour le remercier. Il y aura des souvenirs, lesquels je sais pas. Mais pas que des mauvais, en tout cas.
Bonne santé, hein. Bonne santé à vous,
madame. Pour le professeur Camille Taillé, pneumologue, il y aura un avant et un après Covid à l'hôpital.
Tout a changé. Toute notre vie a changé. Ce sera plus comme avant, je crois. On a vu des gens se révéler, prendre plein d'initiatives. On a vu des étudiants en médecine se transformer en infirmières. On a vu des chirurgiens qui allaient faire les aides-soignantes en réa. Enfin, on a vu des trucs extraordinaires, plein de gens super motivés. Donc oui, c'est beau de voir cet esprit de soignant qui se révèle dans l'adversité. Il y a plein de belles choses, plein de belles choses.
RFI, toute la diversité du monde.
Help keep the biggest little guy on air, hitting above its weight class since 1966. CIUT 89.5 FM can't do it without the generous support of our listeners. Go to CIUT.fm now and click donate.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Et notre quatrième reportage nous invite à visiter la Belgique, cette fois-ci avec « J'avais 10 ans en 44 » de Françoise Barré et Christian Massui de la radio-télévision belge francophone RTBF. À l'occasion de ce 75e anniversaire, Françoise Barré et Christian Massui ont rencontré des enfants de la guerre, des enfants de cette bataille des Ardennes. Et voici leur reportage « J'avais 10 ans, en 44, Françoise Barré, Christian Massui de la radio-télévision belge francophone. »
Il fait froid. L'hiver ardennais fend les pierres, gèle les ruisseaux. C'est l'heure des cache-nez et des mitaines. À Bastogne, libérée depuis 3 mois, ce sont les préparatifs de Noël qui accaparent les esprits. Chez les Georges, c'est une boucherie, des salaisons. Le commerce fait face à l'hôtel de ville. Nelly a 11 ans, le 18 décembre dans l'après-midi. Mais pourquoi aura-t-elle peur?
Je
Je me souviens très bien du premier boulet de canon qui est arrivé à Bassogne parce que je me trouvais devant la porte. Nous habitions la grande rue et le boulet de canon est arrivé sur la maison communale et on s'est fait reprojeter à l'intérieur de la maison par le déplacement d'air. Ça, je m'en rappelle comme d'aujourd'hui.
Très vite, les Allemands encerclent la ville, 18 000 militaires américains et 3 000 civils sont pris au piège. Chez les Georges, les caves sont robustes, anciennes et protectrices. Plusieurs familles rejoignent le boucher, son épouse et les enfants. Les vivres ne manquent pas.
Chez nous, c'était des salaisons. Et on mangeait des pommes, on jetait la moitié. Papa se fâchait parce qu'il disait, écoutez, on risque d'avoir faim et vous ne devez pas gaspiller. Et maman faisait des galettes sur la cuisinière et des pains dans le four pour tout le monde qui se trouvait dans les caves. Il fallait bien manger.
Les familles s'apprêtent à vivre un mois terré sous la terre. Noël sera sous les bombes. La maison des Georges ne résiste pas au bombardement. Nelly et sa famille s'enfuient. La ville est détruite.
Alors on est sortis, on nous a mis des torchons mouillés pour respirer sur la bouche. Et on est allés se remettre dans des maisons abandonnées et dans Bastogne pour terminer la nuit.
Entre deux attaques, Nelly passe le bout du nez hors la cave et s'émerveille.
Ce qui était beau, c'était le parachutage. Ça, c'était beau. Vous voyez du rouge, du vert, du jaune. Et puis, c'était quand même la liberté parce qu'ils envoyaient des armes.
Un millier d'avions parachutent 850 tonnes de munitions et de vivres sur la ville de Bastogne. Dans le salon de Nelly, qui a aujourd'hui 86 ans, une photo attire l'attention. Accrochée dans un cadre doré, elle est en noir et blanc.
C'est le général Patton, Eisenhower et...
Les vainqueurs américains prennent la pose sur ce qui reste de la grande boucherie Georges.
Celle sur nos ruines.
Et vous avez perdu tous vos objets. Trouvé.
Ah oui, tout. On n'a rien sauvé du tout. Si. 4 tasses, je vais vous les montrer. Parce que c'est celle qu'on a bu à la cave. Et on les a retrouvées dans les saloirs.
C'est tout ce qui reste de votre vie.
Tout ce qui reste.
Nelly, une petite fille, au souvenir de petite fille. Sans réellement avoir peur, vivant au jour le jour. Le 15 janvier environ, la famille prend la route de l'Exode, direction Neuchâtel, chez une grand-mère. Un convoi de réfugiés se fraye un passage entre carcasses de jeep et autres batteries d'artillerie.
Vous êtes partis quoi avec des matelas, des vélos, des charrettes ?
Une charrette avec un cheval et les voitures d'enfants et tout ça parce que on était des familles avec des enfants. On a fait 25 kilomètres dans la neige. Ouais.
La guerre, ça a été marquant dans votre vie.
Oh, oui, parce que parlez-en mes enfants, quand ils étaient petits, ils disaient « Maman, raconte-nous la guerre ».
Oui, vous dites que vous êtes émue quand vous repensez à vos souvenirs d'enfance, il y a de l'émotion.
Oui. Oui. Mais on n'oublie pas, vous savez, à Noël, j'y pense chaque fois.
Vous avez de très bons souvenirs.
Très bons, vous souvenez bien, quoi.
Je voudrais que vous viviez, ça vous verrez, vous vous en souviendriez toute votre vie.
Depuis le 23 décembre, le ciel est dégagé au-dessus de l'Ardenne. L'aviation alliée attaque l'arrière des lignes allemandes pour entraver son ravitaillement. Oufalise et La Roche, dans une vallée encaissée, sont littéralement rasés. Le passage des convois allemands est bloqué. Les habitants sont effrayés, les températures descendent parfois sous les moins 20 degrés, les morts se comptent par dizaines. Dédé, à 9 ans, petite fille insouciante. Il faut bien trouver un refuge, alors sa maman la laisse pour préparer les lieux où se mettre à l'abri.
Maman est revenue à notre maison, juste en face de l'hôtel de ville, pour arranger un petit peu la cave, et mettre des matelas, des couvertures, on ne savait pas ce que ça allait durer. Mais alors, entre-temps, le bombardement est arrivé. quand on était dans les caves, ben, le sol tremblait tout, hein. Il n'est jamais... Il était surpris par un tremblement de terre, mais c'était ça, hein.
Et un obus est tombé sur la maison.
Un obus? Des bombes, madame. Maman criait après mon père, Camille, sauve-moi, oui, mais elle était où dans la cave? À droite, à gauche, au milieu, dans tous les décombres, comment voulez-vous aller la retrouver? Il y avait un inspecteur du ravitaillement de Bruxelles qui était tué avec maman. Donc ils ont été à deux, hein, tués là dans la cave. 42 ans, vous rendez compte? Et alors je vous dis, quand on voit la maison avant d'entrer quelque part et puis qu'on ne voit plus que des ruines, ben, et alors la roche tout en feu, hein, que j'ai vu. Pour une gamine de 9 ans, ça fait peur, hein. C'est pas oublié ça, hein. C'est vraiment, c'était imprimé dans le cerveau, hein, ça.
Dédé n'a jamais oublié de garder à ses côtés son seul souvenir d'une maman tuée par les bombardements alliés.
Ben, j'étais chercher ma poupée, hein, qui était coincée entre un mur et un coffre. Alors j'ai récupéré ma poupée. J'aurais mieux aimé récupérer maman. Mais elle est belle, hein. Enfin, c'est un souvenir. Elle a résisté au bombardement.
Les historiens estiment entre 2000 et 2500 civils tués, 500 au Grand-Duché. Un tiers d'entre eux sont morts sous les bombardements alliés. Sans parler des 250 civils morts des exactions et autres exécutions sommaires nazies. 11 000 immeubles ont été détruits. La reconstruction des trois provinces, terrain du dernier sursaut guerrier d'Hitler, sera lente, très lente. Les cicatrices, toujours sensibles aujourd'hui.
Et oui, nous sommes arrivés au dernier reportage, cinquième reportage de la journée, dans le cadre des enregistrements présélectionnés pour le concours final à médias francophones publics. Résultat attendu aujourd'hui en ce 6 décembre. Le cinquième reportage et dernier reportage, Beyrouth, l'espoir en faillite, de Nicolas Falaise et Nicolas Benita de Radio France Internationale. Beyrouth, septembre 2020, on s'en souvient où on était ce jour-là, c'est pas très longtemps, une énorme explosion a dévasté le port et plusieurs quartiers de la capitale libanaise, faisant 200 morts et des milliers de blessés et de sans-abri. Cette catastrophe s'ajoute à l'accumulation de crises qui frappent le Liban. Le pays vit une véritable descente aux enfers économique sur fond de blocage politique. Beyrouth, l'espoir en faillite, un reportage de Radio France Internationale avec Nicolas Benita et Nicolas Falaise.
RFI, grand reportage.
Voilà, alors j'ai eu un bout de verre dans le dos, ce qui fait que j'ai 26 points de suture dans le dos. J'ai 6 côtes cassées. Ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle un pneumothorax, c'est-à-dire de l'air et du sang dans les poumons. En une seconde, tout a explosé, tout est passé par moi. Donc je me considère comme un miraculé, je rends grâce à Dieu, quoi, d'être vivant, quoi. C'est un miracle.
C'est dans un couloir de son appartement de Beyrouth que Omar Boustany a été grièvement blessé par l'explosion du 4 août. Omar a 50 ans, des boucles grises. Ce créatif qui travaille en indépendant dans le domaine de la publicité est aussi un Libanais en colère.
Moi j'étais déjà engagé dans la révolution du 17 octobre contre ce pouvoir illégitime, corrompu, qui marche dans l'axe iranien, qui est très néfaste et nauséabond pour le Liban. Déjà, c'était la catastrophe. Il n'y a pas d'électricité, pas de mazout. Déjà, c'était la catastrophe. Mais on n'imaginait pas qu'une bombe atomique allait détruire la moitié de la capitale et nous dans nos maisons. Et aucune explication, aucun deuil, pas une journée de deuil. Le président n'est même pas descendu voir les gens. Pas un ministre n'est descendu sur le terrain. Pas de drapeau en berne. L'armée n'a pas aidé à sauver les survivants, c'est les gens eux-mêmes qui... Rien, zéro état, la faillite totale. Même au niveau symbolique, qu'est-ce que ça coûte de mettre un drapeau en berne? Rien.
Une ruelle, des escaliers, une terrasse. Nous entrons chez René Bembo. Deux pièces modestes dont les murs sont recouverts d'une peinture sans âge et d'images pieuses. René Bembo a 74 ans, court cheveux blancs et au pied une paire de baskets roses. Elle a toujours vécu dans ce quartier de Beyrouth, ravagé par l'explosion, survenue à seulement quelques centaines de mètres d'ici.
Mais quand il y a eu l'explosion, j'étais sortie pour donner des vêtements à des pauvres. Puis j'ai entendu comme un bruit d'avion. Alors j'ai couru, j'ai vu que des décombres. J'avais peur. J'ai eu peur que ce soit la guerre. Une fois arrivée ici, j'ai vu que deux portes étaient tombées sur mon lit. Si j'y avais été, je serais morte. Et à l'étage d'en dessous, tout avait disparu. Tout était démoli. Personne ne m'a aidée jusqu'à maintenant. Seuls ces jeunes hommes que vous voyez là sont venus. Ce sont eux qui réparent les portes et les fenêtres. Mais je n'arrive pas à dormir. Depuis que je suis toute petite, j'ai peur de vivre seule. Et maintenant que tout est ouvert, je ne dors pas. Je reste éveillée jusqu'au petit matin.
Posées sur le sol, des menuiseries toutes neuves attendent de remplacer les fenêtres de René. Dans la maison en chantier, s'affairent de jeunes hommes vêtus de gilets fluorescents, au dos desquels on peut lire le nom de leur organisation. Baitna Baitak, notre maison est ta maison.
Il y a ici trois fenêtres qui sont cassées et les deux entrances d'or, tout est détruit, toutes les fenêtres et toutes les portes d'entrée.
Ces menuiseries en bois les que l'on voit et les vitres que vous allez poser dessus, elles viennent d'où?
Ils viennent d'où? De Baitna Baitak, on achète les bois et on fait...
Et est-ce que pour l'instant, vous trouvez le matériau, le bois, le verre?
Pas tout, on cherche des gens qui peuvent nous donner des bons prix, on essaye.
Ce bénévole s'appelle Ralph Rawand, il a 28 ans. Ingénieur en électricité, il ne travaille plus depuis des mois pour cause de crise économique sans précédent au Liban. L'explosion du 4 août a frappé un pays déjà confronté à une crise économique et sociale sans précédent. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population libanaise risque de manquer de produits alimentaires de base d'ici à la fin de l'année, en raison de l'aggravation de la crise et aussi à cause de la destruction d'une grande partie du port de Beyrouth. Depuis des mois, les Libanais vivent un enfer économique. Paupérisation, chômage, inflation, crise de liquidité. Nous avons rendez-vous avec un homme qui a longtemps travaillé à l'intérieur du système. En juin dernier, Alain Bifani a claqué la porte du ministère des Finances, dont il a été le directeur général pendant 20 ans.
Très clairement, nous n'en sommes plus à un stade où nous sommes en train de nous battre pour une, deux ou trois réformes. Nous sommes en ce moment une croisée de chemin et il y a l'option d'aller justement vers les réformes tant attendues qui permettraient à ce pays de se relever, soit de plonger encore plus dans la gabegie, la mauvaise gouvernance, la corruption, les inégalités. Et nous sommes en train d'ailleurs d'en voir les débuts. Ces élites, ce sont des gens qui considèrent, et peut-être à juste titre, que toute réforme se fait à leur détriment, puisqu'ils ont fait main basse sur toute l'économie et toutes les ressources. Et que si l'un d'entre eux cède, il va être en position de faiblesse par rapport aux autres. Et donc, organiser le fait que tous cèdent à la fois, c'est très compliqué. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une tentative, elle est sabotée instantanément.
Allô ?
Allô, bonjour ?
Bonjour.
They're pushing us to leave.
Ils nous poussent à partir. Vraiment, ils nous poussent à partir. Je ne peux pas retirer mon argent à la banque ou alors avec un taux de change deux fois plus élevé que celui du marché, ce qui est un désastre. Alors que nous voulons partir, je ne peux pas récupérer mon argent et prendre un nouveau départ ailleurs. Je dois littéralement recommencer à zéro.
Scratch from zero.
Rim et son mari Youssef ont déjà mis en vente leur voiture et d'autres objets afin de financer leur départ du Liban. Ils ne savent pas encore si c'est en Australie, à Chypre, en Turquie ou ailleurs qu'ils referont leur vie. Mais ces trentenaires, parents de deux enfants, sont décidés à partir à tout prix. C'est une superbe maison entourée d'un jardin dans le quartier de Mar Michael. La porte d'entrée est désormais inaccessible, il faut passer par la propriété voisine et franchir un muret éventré pour arriver ici. Privée de ses fenêtres, la maison ottomane bâtie au début du XXe siècle est ouverte aux quatre vents. Un casque de chantier vert sur sa chevelure brune. La psychanalyste Reina Sarkis nous attend au dernier étage de sa demeure en ruine.
On nous ressasse à longueur de journée l'histoire de la résilience, qui est un concept qui est faussement appliqué, faussement compris, et qui ne veut absolument plus rien dire, puisqu'à la base, la résilience, c'est l'élasticité psychique et la capacité à rebondir d'un traumatisme, et non pas à s'adapter sans fin, comme dans une sorte de mise en abîme, de trauma en trauma, et de rester dans une sorte de survie qui dégénère et qui se désintègre, et dire oui, c'est de la résilience. Jamais de ma vie, je n'ai entendu un cri aussi massif et collectif de détresse psychologique. Pour beaucoup de Libanais, le seul endroit où ils se sentent encore relativement en sécurité, c'est quand ils sont chez eux. Et c'est le seul endroit où on est encore dans une sécurité, même si elle est fictive, mais dans une sensation de sécurité. Je ne comprends même pas comment je suis vivante aujourd'hui. Mes voisins du dessus, d'en face, ils sont soit morts, soit dans les hôpitaux. Ils ont des tendons arrachés, des genoux explosés, des côtes, un œil qui a sauté. Je vous parle aujourd'hui, j'étais devant la baie vitrée, l'explosion est venue vers moi, j'ai été soufflée, je me réveille dans des dégâts, dans un truc apocalyptique de fin de monde. Et je réalise petit à petit que c'est pas moi, c'est mon appartement, c'est mon immeuble, c'est pas mon immeuble, c'est pas le quartier, c'est la ville.
Je ne sais rien.
Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Et vous, moi, et dans le son.
Approchez, regardez.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leurs légendes urbaines.
La rue a une voix.
Attention, prêt, déguster. RCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses, équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
CIUT 89.5, Toronto.
Donc quand il vient derrière moi et puis il me demande de sortir, je lui demande pourquoi. Et c'est là que c'est très agressif. Ta gueule, et puis d'autres insultes raciales, des insultes à caractère racial, mais...
Sale nègre, c'est ça qu'on lui a dit.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus.
Devant le Super U, j'ai rempli mon caddie, j'ai racheté du PQ avec des spaghettis. Depuis que je l'ai su, je me dis c'est reparti, je suis reconfiné. Je ressors mes baskets, je fais semblant de courir, je sais c'est malhonnête, j'ai pas de chien à sortir, je mange des tartiflettes, les kilos vont revenir, je suis reconfiné. Je me suis trompé et la chasse a cassé. En guerre contre le virus, mais aussi contre la fête. On l'a pris dans l'anus, les boîtes de nuit en tête. Mon paquet de lotus, mes pâtés, ma baguette. Je suis reconfiné. Je suis reconfiné, juste en fin d'année. Je suis autorisé que d'aller voir bébé. Je suis confiné, mais le métro. Je refais l'agenda, nouvel an en juillet. J'avoue que ça m'arrange pas, pas pratique pour skier. Je vais fêter le chinois, ça tombe en février. Joyeux namasté.
Vous écoutez Poupourri Show sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Pour nous joindre, poupourri@cut.fm. Pour télécharger, réécouter nos émissions tout au long de l'année, poupourrishow.com. Et oui, à venir le nouveau clip du chanteur canado-haïtien Jerry Mr. J et la nouvelle chanson du Martiniquais Stéphane Rabord à ne pas rater. Eh oui, l'Amérique, où sont passées tes vertus? Le journaliste et historien Thomas Ricks revient aux sources de la démocratie américaine pour en retrouver les principes fondateurs. Biden les retrouvera-t-il aussi? Un livre très révélateur que je vous recommande. Mais pour tout de suite, le monde numérique a envahi nos vies. Le contexte de pandémie a transformé de façon brusque, inattendue, le monde du travail. Et oui, le télétravail est le nouveau mode de vie pour des milliers de travailleurs, travailleuses. Mais comment ça se passe pour ma chère tante de 90 ans qui vit à Rennes, qui n'est pas familière au monde numérique? Comment faire pour qu'elle passe ses commandes? Eh oui, en voici un exemple, tout en humour.
Allô?
Oui?
Oui, bonsoir madame.
Bonsoir.
Bonsoir madame, monsieur Thierry Lavignas à l'appareil de la téléphonie française.
Oui?
Vous êtes sur un téléphone fil?
Fixe?
Oui, un téléphone fixe madame, voilà, absolument. Alors, je vous appelle parce que vous avez certainement entendu parler madame. Depuis le 1er janvier 2019, nous supprimons petit à petit les lignes de téléphone fixe. Est-ce que vous le saviez?
Ah non.
Voilà, donc nous allons les supprimer progressivement.
Oh.
Oui, alors ne vous inquiétez pas, c'est progressif, madame, hein.
Ah, d'accord.
Donc, alors, attendez, je suis en train de me connecter en même temps sur votre ligne. Voilà, donc c'est pas prévu pour tout de suite, vous, madame, hein.
D'accord.
Voilà, nous allons les faire évoluer en attendant. Nous allons ce qu'on appelle les upgrader. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Ah non.
En fait, nous allons rendre votre téléphone, sans le changer, plus technique, plus moderne.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà. Donc, désormais, vous allez pouvoir prendre des selfies avec votre téléphone.
D'accord.
Vous pourrez prendre des photos, voyez, de vous-même, comme les téléphones portables.
D'accord. Okay.
Alors, je vous propose, madame, donc, de faire un essai. Est-ce que vous pouvez tendre le bras, madame, avec le téléphone vers vous,
oui,
vers votre visage, et appuyer sur la touche 5?
Oui.
Allez-y. Alors, attendez, je regarde si la photo arrive, madame. Ah oui, la photo arrive, mais vous étiez, le téléphone n'était pas devant vous, madame.
Ah, d'accord. Okay.
Là, je vois le plafond, madame.
D'accord.
Voilà, il faut que vous le mettiez vraiment devant vous.
D'accord.
Et touche 5.
Sur le 5.
Voilà. D'accord. Quand vous êtes prête, touche 5. Vous êtes pas prête? Ah, voilà.
C'est bon?
Je reçois la photo, madame. Vous n'avez pas souri, madame.
Ah.
Non, je me permets de le dire parce que vous... voilà, on va. Alors, allez-y, on en fait une dernière, vous souriez. Je l'ai. Je l'ai, madame. Ça y est, je l'ai. Ça, tout a très bien fonctionné. Votre ligne est parfaite, madame.
D'accord.
Alors, nous avons une nouveauté maintenant. Nous pouvons envoyer la photo à quelqu'un.
Ouais.
Allez-y.
Ouais.
Bah, ce qu'il faut, c'est bien donner, dès que vous entendez le bip, madame, son prénom et son nom, et la photo va partir.
D'accord.
Dès que vous entendez le bip.
D'accord. Kevin.
Attendez. C'est pas parti, madame. On m'a dit de le dire. Il faut le dire plus fort dès que vous réentendez le bip. Hein.
D'accord. Kevin.
Elle est partie. Elle est partie, la photo, madame. Elle est partie. D'accord. Merci beaucoup de votre gentillesse, madame.
D'accord.
Alors, je vous redonne mon nom si vous voulez me joindre.
Oui.
Voilà, je m'appelle Monsieur Coé et on est sur Énergie. Oh voilà.
I'm your DJs.
Tolalito Music nous présente un artiste pour la première fois à cette antenne. Alors, qu'est-ce que Tolalito Music? C'est une agence artistique indépendante ayant pour but la promotion, la propulsion de la musique partout où il est possible de l'entendre. Et nous présente aujourd'hui Jerry Mr. J, de son vrai nom Jerry Pierre. Il a grandi à Port-au-Prince, Haïti. Très jeune, il a fait de la musique une essence à sa vie. Il crée son premier groupe Magic 5, Magic 5, avec ses amis d'enfance. Plus tard, il rejoint l'ensemble 9-5. Depuis son arrivée à Montréal en 2011, il a donné plusieurs concerts au Canada. Il a collaboré avec plusieurs musiciens, dont l'artiste Richie J, qui passe régulièrement à cette antenne. Après ses deux derniers singles, N'a pas boulé ou Combien encore, Jerry Mr. J nous emmène aujourd'hui dans une ambiance plus légère avec sa nouvelle pièce Natural. Et cette fois-ci, sur son ton afro, il nous décrit tout en douceur la femme de ses rêves, comme il étant belle, au naturel, bien sûr. Jerry Mr. J trace aujourd'hui son chemin en tant qu'artiste solo à Montréal. Et afin de nous montrer sa versatilité, son talent, il prépare actuellement un EP où il harmonisera des pièces R&B, zouk, compas, afrobeat, reggae, dancehall, rap. Et malgré la pandémie, Jerry Mr. J ne chôme pas. Et voici, en exclusivité, son dernier clip, Natural.
You're so nice, girl, you're so natural. You're so nice, girl, you're so natural.
Oui, nous venons d'entendre Mr. J, un artiste à surveiller absolument. Il est originaire d'Haïti et il vit à Montréal. Merci à Elisabeth Drapeau de Totalito Music pour cette belle découverte. Avant de vous présenter deux trésors à des tropiques, j'aimerais remercier du fond du cœur ceux et celles qui ont contribué si généreusement à notre dernière campagne de levée de fonds. Comme vous le savez, cette radio existe grâce aux dons de ses auditeurs. Nous sommes actuellement près de 70 000 $. Il nous reste 30 000 $ environ pour atteindre notre objectif de 100 000 $. Si je sais que les conditions sont assez difficiles pour beaucoup d'entre vous, mais si vous avez les moyens, vous pouvez aller sur notre site www.ciut.fm et cliquer sur le bouton Donate. Et n'oubliez pas de mentionner Popourri Show. Merci d'avoir été des nôtres lors de cette balade intercontinentale de 2 heures. Merci à DJ Devera, Maître Peter Biro, Amélie Baron, à Port-au-Prince, nos correspondants en France, en Afrique et aux Antilles. Et en dernière heure, nous apprenons que le Parlement suisse accepte le mariage pour tous. Voilà une bonne nouvelle. Première conférence virtuelle de la Société d'Histoire de Toronto en collaboration avec l'Alliance Française de Toronto. C'est prévu le mercredi 9 décembre à 18h, une première. Bougainville en Canada, la guerre de la conquête en est le thème. Le conférencier est Christian Bode, ancien fonctionnaire, un homme qui fait des choses très intéressantes. Je vous rappelle que cette conférence est gratuite. Il faut réserver absolument, c'est obligatoire. Veuillez visiter notre site popourrichaud.com pour avoir tous les liens nécessaires sur cette conférence de la Société d'Histoire de Toronto. Conférence gratuite, virtuelle, prévue le mercredi 9 décembre à 18h. Nouveauté des éditions Prise de Parole. Mon Joie de Michel Ouellette, un roman à la frontière de la quête et de l'enquête. Mon Joie construit en pointillé un récit polyphonique où se dérobent toutes les certitudes. Michel Ouellette est originaire de Smooth Rock Falls, dans le nord de l'Ontario. Il est l'auteur d'une 40aine de pièces, de romans, recueils de poésie et contes pour enfants. Il a remporté le prix du gouverneur général pour French Town et le prix Tridium pour le testament du couturier. J'espère l'avoir très prochainement à l'antenne. Eh oui, en ces temps troubles, merci de nous faire confiance. Nous entendons actuellement un DJ qui nous invite à un morceau qui s'intitule, tenez-vous bien, Lockdown Level 3. Et c'est de Godfather Coronavirus. C'est un thème. Ah oui, il y a beaucoup d'artistes qui lancent des thèmes. D'ailleurs, avant la fin de l'année, nous aurons des émissions spéciales sur toutes ces génies en herbe qui font des choses extraordinaires à travers la planète, de l'Afrique, en Europe, au Québec. Vous allez voir, on va en rire. Il faut bien se dérider un peu, n'est-ce pas, en ces moments très difficiles. Et j'ai le plaisir d'offrir un cadeau à Jean Jubenot, enseignant de son état dans la région de Toronto. Il souffre de la chaleur, et il souffre de l'été, des tropiques. Et donc, on va lui offrir un petit cadeau parce qu'il ne peut pas voyager en ce moment. Je lui présente un grand ténor que nous venons de découvrir, un ténor du Zouk, originaire de la Martinique. Il s'appelle Stéphane Rabord. Il s'est fait connaître en tant que membre du groupe Clin d'œil en interprétant le titre Rété Cool, qui a eu un grand succès en Martinique, dans les Antilles et même en France. Mais c'est aussi un timbre de voix qui ressemble étrangement à celle du célèbre Paulo Albin, que tu connais sans doute, Jean. Et juste après, dans la séquence Le Mix de l'émission Couleur Tropicale de RFI, la grande discothèque de l'Afrique. Eh oui, DJ Fina du Tchad est au platine. Ses mixages sont extrêmement appréciés en Afrique et à la radio mondiale. DJ Fina Sozo, un mixeur peu connu au Canada, un nom à surveiller, madame, monsieur. Allez, j'attends vos bons plans de fin d'année, votre mot ou expression de l'année 2020. Quelle année 2020? Eh oui, écrivez-nous à popourri@cut.fm. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine, portez-vous bien et que la force soit avec vous.
Jis mal parle moi, se yo ser quizá, yo ser quizá. Mo cam manger tout mon responsable. Du sa yo qu'a dit, sa yo qu'a dit. Cimetière, oh, laissez-moi dans.
Gucci.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena love.
Adra bella cosa, adra bella cosa, dingue da.
Écoutez la planète chanter.
Le Tropical Audition, le number one.
Allez, place à la danse et aux platines de la plus grande discothèque d'Afrique, DJ Fina Sozo, en direct de N'Djamena.
Oui.
Allez, tout le monde sur la piste. Allez, on y va.
Avec vous, préparez ce qu'il faut pour la danse. Hein? Pourtant, vous savez que ce soir,
c'est la discothèque.
C'est la discothèque.
C'est ça, Manou. Grand Manou des bandes. C'est sa voix.
J'ai tant dansé, vous les voler. Pour causer mon rêve comme ça, là. À mal parler des autres, toujours comme ça, là. Ça, là. Entendant les roues. Je suis toujours des poubelles. Et tout, my God.
Yeah.
Fina Sozo dans la plus grande discothèque d'Afrique. Il était donc au platine, il vous a fait danser sur Ashton pour Today of Tomorrow. Il y avait Dyson avec Watoshi. Il y avait Monsieur Pif avec Toi et Moi, et à l'instant OBJ avec... Ah bon, hein? C'est ça. Bon anniversaire à Blanc.
appel à ton souvenir.
Ay, maman, buena lo voy.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa, ding-e-dong.
Ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
C'est pas la peine où tu es l'autre là, ou petit à petit brûle la vie, ou qu'a dit c'est des bouillards, et des bouillards c'est pas péché, mais on pas qu'à songer l'autre là, qui est au déraillé pour petit brin la vie, ou qu'a dit c'était bouillard.